18-20.
Voici le téléphone sonne jusqu'à 20h. C'est votre émission ce soir, la formation des élites en France. La suppression de l'ENA figure parmi les mesures qu'Emmanuel Macron devait annoncer lundi soir à la télévision. Dans l'enregistrement qui a fuité, Emmanuel Macron veut un changement de la formation, de la sélection et des carrières en supprimant l'ENA. Nous avons besoin d'une élite de décideurs, dit-il. Il faut donner à tous nos jeunes leur chance en fonction uniquement de leur mérite et pas de leur origine sociale ou familiale. L'ENA a formé 4 présidents de la Ve République, Emmanuel Macron, François Hollande, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. L'ENA traîne une image de machine à former des élites consanguines. Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ENA a formé en un peu plus de 70 ans quelques 7000 hauts fonctionnaires français et accueilli plus de 3700 élèves étrangers. Supprimer l'ENA, démagogie, fausse solution, c'est ce que disent aujourd'hui des élèves de cette école et d'anciens élèves de l'École nationale d'administration. Quelle est votre opinion? Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cette école prestigieuse qu'Emmanuel Macron, semble-t-il, veut supprimer? Appelez-nous au standard 01 45 24 7000 et puis le site de l'émission franceinter.fr.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Et pour vous répondre avec nous dans ce studio, Adeline Baldacchino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne élève de l'ENA, auteur d'un livre qui est paru en 2015, La ferme des énarques, c'est paru aux éditions Michelon. Claire Auger, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Est Créteil. Et vous avez écrit Le façonnage des élites de la République aux presses de Sciences Po, c'était en 2008. Et puis en ligne avec nous dans les studios de nos amis de France Bleu Saint-Étienne Loire, Thierry Mandon. Bonsoir Thierry Mandon.
Bonsoir.
Thierry Mandon, vous êtes ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sous la présidence de François Hollande et vous êtes aujourd'hui directeur de la Cité du Design à Saint-Étienne. On va au standard et Jean-Louis nous a appelé, il est en ligne avec nous. Jean-Louis, bonsoir.
Bonsoir. J'ai 70 ans et j'ai arrêté mes études en seconde, donc je ne peux pas être soupçonné, n'est-ce pas, de défendre l'élite énarchique. Même si j'ai une petite cousine qui a épousé un énarque et qui est d'ailleurs toujours fonctionnaire près de la retraite. Ce qui me paraît surprenant dans la proposition du président de la République, c'est que elle correspond à une espèce de truc démagogique en ce moment qui consiste à critiquer les élites de toutes sortes. Il y a des critiques à faire, il y a certainement des réformes à faire dans la formation des hauts fonctionnaires, mais il me semble que dans la période actuelle, dans les temps actuels, ce dont l'État a besoin, c'est de gens de qualité, qu'il s'agisse de ses fonctionnaires comme d'ailleurs de ses élites politiques. Or, on est bien obligé de constater, si on regarde 30 ans, 40 ans en arrière, qu'il y a un désengagement de certaines élites intellectuelles et autres économiques dans la politique et dans l'administration, où les gens qui sont avocats, médecins, spécialistes, etc., gagnent bien plus qu'en s'embêtant à être dans des ministères. Donc la question est de savoir, de mon point de vue, si on veut maintenir un État avec des gens de qualité à tous les niveaux pour être en capacité d'être capable de se confronter aux grandes élites économiques mondialisées qui aujourd'hui dominent l'essentiel des développements économiques, voire culturels ou sociaux, oui. et si on veut affaiblir l'État. Voilà, c'est mon point de vue.
Alors, merci Jean-Louis d'avoir posé cette question, d'avoir fait ces remarques. Jean-Louis qui est au Mans. Adeline Baldacchino, que pensez-vous de son point de vue?
Bien, écoutez, je suis assez largement d'accord avec Jean-Louis parce que je crois que supprimer le totem ne va pas régler le problème. Le problème, c'est non pas tant d'ailleurs les conditions du concours d'entrée qui est améliorable et qui pose des problèmes de méritocratie mais qui se pose à toutes les écoles et en fait dans l'enseignement supérieur en général et qui doivent aller se régler très en amont, n'est pas tant non plus de régler le classement de sortie. Il y a des classements de sortie, il y a des classements en tous les cas dans quasiment tous les concours de la République. Le problème, il est de se concentrer sur la formation et sur ce qui se passe pendant les 2 années de l'ENA. Moi, c'est ça qui m'intéresse et j'ai pas beaucoup plus de visibilité à ce jour. Et supprimer l'ENA ne nous dit pas comment on recrutera les fonctionnaires et qu'est-ce qui remplacera ce qui, malgré tout, constituait, avec tous les défauts dont j'ai largement parlé, un sas d'intérêt général, quelque part.
Alors c'est ce que disait Jean-Louis, il faut former des hauts fonctionnaires qui puissent être vraiment en prise avec le monde actuel. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, à l'ENA, dans ce domaine-là, la formation est insuffisante ?
J'ai le sentiment que même si l'ENA a fait peut-être quelques progrès dans les dernières années, notamment en commençant à se retourner vers l'université d'une part et à faire venir ou à tenter de faire venir, mais c'est largement insuffisant, des chercheurs, et puis surtout en introduisant des demi-journées par-ci par-là, de missions d'intérêt général, en essayant de rapprocher les élèves du monde associatif par exemple, ça reste en effet, je crois, largement insuffisant parce que l'ENA garde cette tendance à enfermer les gens qui y entrent avec souvent la meilleure volonté du monde dans une forme de bulle dont il est difficile de se détacher ensuite.
Sur ce thème, Claire Auger, un commentaire?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Moi, je connais plus la question de la sélection que la question de la formation, hein, puisque je crois qu'il y a trois choses très différentes en fait. Vous avez évoqué d'ailleurs dans la petite citation initiale hein, la formation, la sélection et la carrière, et ce sont trois choses en fait sur lesquelles on n'a pas d'ailleurs tellement d'informations, puisque pour le moment on ne sait pas, à supposer que l'ENA soit supprimée, par quoi elle serait remplacée. Donc c'est ça qui sera intéressant en fait. Je voudrais juste revenir à propos de la question qui a été posée sur le mot de démagogie. Oui, peut-être, c'est peut-être une mesure démagogique, effectivement, si rien ne remplace sérieusement et ne règle sérieusement les questions qui ont souvent été soulevées, puis qu'on va peut-être continuer à soulever dans le cours de l'émission. Donc c'est peut-être de la démagogie, mais pas forcément non plus. C'est-à-dire que critiquer les élites, ça n'est pas de la démagogie. Critiquer les élites, c'est aussi un fonctionnement normal dans une démocratie, au sens où c'est normal qu'on s'interroge sur la façon dont les élites fonctionnent, la façon dont ils sont recrutés, la façon dont ils sont ou pas en prise avec ce qu'on appelait à une époque le pays réel. Hein, voilà. Oui. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas de la démagogie. La critique n'est pas de la démagogie.
Thierry Mandon, je rappelle, ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur. Vous avez le sentiment que les élèves de l'ENA, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment bien préparés à affronter toutes les mutations technologiques, économiques que nous vivons?
Oui, l'ENA, c'est une école d'application, c'est-à-dire que la formation qu'on reçoit à l'ENA est très très légère, ou plus exactement, elle est très orientée sur la mise en application d'un certain nombre de valeurs. Vous savez qu'à l'ENA, par exemple, il n'y a pas de professeur. À l'ENA, c'est des contributions de gens qui passent, qui font des conférences, il n'y a pas du tout de recherche. Il n'y a pas d'apprentissage du travail avec des chercheurs. Enfin, donc il y a en effet un problème de contenu de formation de ceux et de celles qui seront les cadres supérieurs de l'État demain. Il y a d'ailleurs plus généralement une réflexion à mener sur la stratégie que un État moderne doit avoir pour générer, diversifier, organiser ses élites.
Et quelle serait la bonne stratégie
dans la décision du président, c'est que je ne vois pas, dans la décision supposée du président, c'est que je ne vois pas au nom de quoi on supprime l'ENA. Que si c'est au nom de l'insuffisante diversité sociale, très bien, mais il faut supprimer toutes les grandes écoles du pays, qui sont toutes, sans aucune exception, dans le même, on peut leur faire toute la même critique. Si c'est au nom d'une formation pas adaptée aux enjeux modernes, très bien, mais là encore, il y a beaucoup de très grandes écoles, y compris qui préparent des hauts fonctionnaires dans d'autres domaines, qui doivent évoluer. Enfin, voilà, donc là, on a quand même le sentiment qu'on sacrifie un effet de mode, mais que la réflexion sur la formation des élites de l'État, et d'ailleurs plus généralement sur l'architecture de l'État lui-même, c'est renvoyé à plus tard, quoi.
Vincent est au Sable d'Olonne. Bonsoir Vincent, merci d'écouter le téléphone sonne. C'est à vous maintenant, en direct sur France Inter.
Oui, bonsoir. Voilà, alors très rapidement, tout d'abord je pense que c'est une mesure que je trouve quand même assez démagogique et populiste, dans la mesure où on annonce une suppression sans proposer autre chose à la place. Le deuxième point, c'est que je pense qu'en tant que je ne suis pas haut fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire du tout même, je pense qu'on a quand même besoin d'une fonction publique bien formée. Et comme proposition, j'aurais celle-ci, c'est il y a deux options. Soit on maintient un recrutement à 24-25 ans d'étudiants pour devenir haut fonctionnaire, mais à ce moment-là, on supprime l'accès au grand corps qui parasite toute la scolarité de ces jeunes gens, c'est-à-dire l'accès à la Cour des comptes immédiate, au Conseil d'État et à l'inspection des finances pour les 15 premiers, soit, beaucoup plus radical, on fait une véritable école d'application qui se baserait comme avec un examen professionnel vers la quarantaine pour des fonctionnaires qui seraient recrutés dans les, par exemple, les instituts régionaux d'administration qui forment des fonctionnaires de catégorie A. Et au bout d'une dizaine d'années, on ouvre un concours qui serait l'accès à l'ENA pour des gens qui ont 10 ans d'exercice. En même temps, on ouvre ce concours pour des gens du privé qui ont 10 ans d'exercice, puisque je crois que c'est la troisième voie qui existe déjà pour 5 ou 6 postes par an.
Merci, voilà. Merci Vincent. Sur ces propositions de Vincent, Adeline Baldacchino, ancienne élève de l'ENA.
Je crois que c'est la bonne question que pose Vincent, c'est la question des alternatives et de ce qu'on peut essayer d'imaginer. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui reste vraie, c'est la raison pour laquelle on a créé l'ENA en 1945, et c'était un accord à l'époque et des gaullistes et des communistes, de Debray et de Thorez. Et l'idée était qu'il fallait que ce soit une école qui, il y avait cette jolie formule de Debray qui donne le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne et des moyens de les bien remplir. Et deuxième raison, c'était une école qui devait éviter les effets de népotisme et de cooptation. Et ça, c'est un risque réel et qu'il faut pas ignorer. Alors, qu'il y ait des alternatives à n'en pas douter, encore faut-il regarder lesquelles. Et par exemple, simplement s'orienter vers un système qui conduirait à repousser une sorte d'intégration dans les grands corps de l'État à la quarantaine, pourquoi pas, mais sur quels critères? Car là encore, il ne faudrait pas imaginer que l'intégration dans un corps, quel qu'il soit de l'État d'ailleurs, soit finalement conditionnée par une forme d'obéissance ou de servilité ou constitue une manière de récompense. Il y a d'ailleurs aujourd'hui déjà ce qu'on appelle un tour extérieur dans un certain nombre d'institutions de l'État qui permet de faire entrer des compétences très diversifiées, mais cette garantie du recrutement initiale me semble quand même importante.
Adeline Baldacchino, vous avez fait l'ENA. Aujourd'hui, vous travaillez dans quel grand corps de l'État ?
Je travaille dans l'un des grands corps de sortie qui est la Cour des comptes, mais ça n'est pas au nom, et en aucun cas au nom de la Cour des comptes que je parle.
Et en travaillant à la Cour des comptes, au quotidien, dans quel domaine vous vous êtes dit « j'ai fait l'ENA et il me manque quand même différents points importants pour être vraiment efficace » et ça montre que la scolarité à l'École nationale d'administration n'est pas suffisante.
Par chance, la Cour des comptes, étant un corps à la fois de contrôle et d'évaluation, est un endroit où on travaille avec un principe qui est celui de la collégialité, qui permet d'apprendre avec les autres et qui donne le temps aussi d'approfondir les problèmes avec un peu de recul. On a moins directement le nez dans le guidon, j'ai envie de dire, que ceux qui se retrouvent directement affectés, administrateurs civils, à la tête d'un bureau. Je crois que dans tous les cas, on est tous affectés au dernier jour de la scolarité à l'école, du jour au lendemain dans un corps dont on ne pouvait pas prévoir qu'on lui appartiendrait 15 jours avant. Et donc vous imaginez bien que ce soit en matière de finances publiques pour les uns, de géopolitique et de stratégie pour les autres, ou de compétences juridiques pour les troisièmes, on a un assez bon vernis, ça je ne le nie pas, mais en réalité, les compétences dures, techniques et l'expertise ne s'acquièrent qu'après la sortie de l'école.
Claire Auger, je rappelle, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Est-Créteil.
Oui, les solutions qu'évoquait Vincent sont intéressantes, la suppression des grands corps, un recrutement plus tardif, etc. Bon, mais ce sont des solutions qui à la fois sont tout à fait sérieusement étudiées régulièrement et qui sont un peu un serpent de mer. Donc on a l'impression de tourner en rond, en fait. Elles ont déjà été évoquées à de nombreuses reprises dans les années 80, dans les années 90, dans un certain nombre de rapports, dans un certain nombre aussi de rapports de jury. Et voilà, et on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément opératoire, en particulier pour celles qui concernent le recrutement tardif que vous évoquiez à l'instant. On a noté que ça risquait d'affaiblir beaucoup l'attractivité pour des jeunes brillants. Si on les recrute à 40 ans après une carrière de fonctionnaire plus classique, on voit mal comment on pourra recruter le même type de personnes.
Des courriels sur le site de l'émission, je vous lis celui-ci, c'est François qui nous dit « Le bilan des 40 dernières années des dirigeants qui ont fait l'ENA n'est vraiment pas bien brillant. Les énarques appartiennent à une caste, je cite, qui a fait des dettes, des chômeurs, des déficits. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA ?» Adeline Baldacchino.
Malheureusement, je crois qu'il faut prendre très au sérieux ces remarques, parce qu'elles ont un fond de vérité. Simplement, je ne crois pas que ça soit de la responsabilité, en tout cas exclusive des énarques, mais que c'est un phénomène de société, qu'il faut s'interroger sur l'endogamie de manière générale des élites économiques et financières, qu'il faut s'interroger sur la prégnance d'un modèle de nouveau management public qui tend à confondre le privé et le service public, et que ces problématiques qui sont des mouvements de fond de la société concerne aussi bien les énarques que les autres, que tous les autres. Alors maintenant, si la question c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA, il se trouve que l'on apprend des choses très variables, mais qui relèvent en partie de la communication publique. On apprend à écrire des éléments de langage qui peuvent servir à un ministre. On apprend parfois à gérer des crises, notamment pendant les stages en préfecture. Et au fond, on apprend à être une sorte d'outil tout terrain, mais qui ne va devenir éventuellement et au mieux un expert que assez longtemps finalement après la sortie.
Mais on dit souvent les énarques sont déconnectés des réalités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les énarques connaissent les réalités de la France, le quotidien des Français, quel que soit leur niveau social sur ce point, Claire Auger?
Là aussi, je pense que ça ne concerne pas que les énarques. Là, je partage tout à fait. C'est-à-dire que là, et c'est là où c'est un peu paradoxal que ça vienne, enfin que la décision vienne d'ailleurs d'un président comme Macron et d'un gouvernement comme le gouvernement actuel. On n'a pas du tout l'impression que ce gouvernement a fait des efforts démesurés pour se rapprocher, voilà, des classes populaires ou de l'ensemble des prises de parole qui peuvent avoir lieu dans une société. Donc c'est un petit peu curieux, disons. Alors je ne sais pas encore si c'est de la démagogie parce que je ne sais pas encore ce qu'il propose à la place, mais en tout cas c'est très très paradoxal.
Thierry Mandon voulait intervenir à Saint-Étienne, Monsieur Mandon.
Oui, bon, si on résume les quelques critiques qu'on fait à l'ENA, donc il y a la question, on l'a évoqué, de l'entre-soi, que Mme Auger connaît bien, et depuis longtemps, Pierre Bourdieu a écrit un livre fameux sur la reproduction, donc on connaît ce problème, il ne prend que plus d'acuité. Ça ne justifie pas la suppression de l'ENA, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de grandes écoles qui sont dans ce domaine-là. Il y a une critique sur les contenus de formation, moi je pense que c'est tout sauf une école, l'École nationale d'administration, ça doit le venir. Mais il y a une critique plus forte encore, qui a fragilisé l'ENA, c'est le comportement d'un certain nombre d'énarques, peu, mais symboliquement, ça frappe très fort, qui, à peine fini l'ENA, file dans le privé ou file en politique. Et le président connaît bien ses défauts, puisqu'il a les deux. Lui-même s'est précipité, après quelques temps, peu longtemps, de l'inspection des finances à la banque, et ensuite en politique. Et l'ENA, quand elle a été construite, ça a été rappelé tout à l'heure par l'une des interventions, c'était pour former des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui avaient une certaine idée de l'État et qui portaient cette idée-là. L'État. Les comportements d'un certain nombre d'énarques qui finalement se sont servis de l'ENA comme un accélérateur de carrière ailleurs que dans le service public, ont fragilisé l'ENA. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui procèdent pas du tout comme nous, et c'est le débat que votre auditeur amorçait, qui ne cherchent pas à installer des très hauts fonctionnaires dès après leur scolarité initiale. Donc, qui considèrent que, finalement, un certain nombre d'années d'expérience, c'est important, et qui... quelques années après, recrute, donc c'est 40 ans, peu importe, 35, c'est pas très important, mais qui ont un système de formation des élites qui est complètement différent d'une autre, qui est beaucoup plus orienté sur la formation continue des cadres supérieurs de l'État que sur la formation initiale. Aux États-Unis, par exemple, il y a une école qui s'appelle la Kennedy School, qui est à Boston, qui chaque fois qu'un haut fonctionnaire est affecté à une nouvelle mission, pof, obligatoirement, il passe 3 à 6 mois en formation à ce qu'est l'équivalent de fait de l'ENA. Moi, je pense que là, il y a un modèle intéressant, si encore une fois, on s'intéresse à la formation des cadres supérieurs de l'État, que de se dire finalement, on peut avoir de très bons très hauts fonctionnaires qui entrent dans les postes de responsabilité importantes dans les grands corps ou dans l'administration plus tard, mais la formation continue fait partie du parcours d'insertion de ces cadres diversifiés.
Thierry Mandon, vous parlez de ce qui se passe à l'étranger. On a beaucoup de courriels sur le site de l'émission. On nous demande, mais voilà, l'ENA, c'est une particularité française. Comment ça se passe pour la formation des hauts fonctionnaires en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne? Qui veut répondre? Thierry Mandon, vous avez des lumières là-dessus?
ou des lumières, en tout cas, j'avais analysé ces choses-là, puisque moi, par manque de temps, j'ai pas pu m'attaquer à l'évolution des contenus de formation de l'ENA. Donc les systèmes sont très diversifiés, parce que la formation des cadres supérieurs d'un État renvoie à la conception qu'on a de l'État. En Allemagne, vous êtes dans un État
fédéral.
Donc, vous avez des élites très importantes qui sont formées ou qui sont nommées sur des bases qui n'ont rien à voir avec une grande école centralisée, jacobine en France. En Angleterre, c'est à l'université. C'est l'université qui finalement fabrique les futurs cadres supérieurs de l'État. Donc vous voyez, tout ça renvoie à une question de l'architecture de l'État. Et la vraie critique qu'on peut faire à l'ENA, me semble-t-il, c'est que finalement, elle fournit des bataillons à l'État cathédral, l'État hyper vertical, malgré la prise de conscience qu'ont un certain nombre de gens. Je relisais l'intervention de Jean-Marc Sauvé, le président du conseil d'administration de l'ENA, la promotion 2018-2019, qui est bien conscient de ces risques-là. Mais cette sélection, cette formation est aujourd'hui directement liée à une conception de l'État qui est beaucoup trop centralisée et beaucoup trop autoritaire et verticale. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'il faut aussi chercher à faire évoluer la formation des cadres de l'État de demain, des cadres supérieurs de l'État de demain.
Adeline Baldacchino, je rappelle, l'énarque et auteur de La ferme des énarques, c'était paru en 2015.
Ce qui est très vrai dans ce que vient de dire Thierry Mandon, c'est que je ne crois pas qu'on puisse transposer comme ça, avec armes et bagages, n'importe quel système chez nous. Et que, en plus, c'est parfois plus compliqué, plus coûteux de faire ça. Et on se rend compte après coup qu'en fait, ce n'était pas adapté à une histoire, par exemple, qu'on ne prendrait pas en compte. Et donc, vous posiez tout à l'heure la question de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on devrait faire pour rapprocher le monde des hauts fonctionnaires du réel. Il y a pourtant des choses relativement simples à faire dans le cadre institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui, à condition de ne pas se payer de mots quand on parle de révolution et ne pas utiliser révolution pour cacher des réformettes cosmétiques. Et alors, très simplement et très concrètement, on pourrait très bien imaginer que l'ENA, si elle devait servir les deux objectifs qu'on disait tout à l'heure, le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général, on y remette du contenu, tout le monde s'accorde à dire, y compris tous les anciens élèves, qu'il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, ça peut être un semestre d'éthique économique et sociale à haute dose où on verrait venir des philosophes contemporains, des sociologues, des chercheurs qui viendraient expliquer les conséquences de telle ou telle mesure et des expérimentations qui ont pu être tentées dans d'autres pays d'ailleurs sur tout un ensemble de sujets. Et puis deuxièmement, une fois le classement, c'est-à-dire l'affectation définie, et affectation qui devrait intervenir beaucoup plus tôt dans la scolarité, eh bien on pourrait imaginer une petite série de stages ouvriers du service public, où l'idée ne serait pas d'aller auprès d'un préfet organiser les visites ministérielles, ne serait pas d'aller auprès d'un ambassadeur porter ses valises ou écrire des éléments de langage et organiser les cocktails de la communauté française, mais bien plutôt d'aller dans les services de l'État et au plus proche de la réalité quotidienne des gens.
Pierre est à Paris et nous écoute. Bonsoir Pierre, vous vouliez intervenir, c'est maintenant, bienvenue.
Oui, bonsoir et merci pour toutes les bonnes idées qui circulent. Mais moi j'approuve totalement l'intention du président Macron de supprimer l'ENA. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Moi j'ai été maître de conférence à l'ENA il y a une vingtaine d'années. L'ENA ne forme pas, elle formate les hauts fonctionnaires. Regardez les rapports de la Cour des comptes. Ils disent tous la même chose, quel que soit le sujet. Il faut baisser la dépense publique, il faut réduire le personnel, réduire les effectifs, etc. C'est systématiquement pareil, même formatage. Et je crois qu'on ne peut pas démocratiser et rendre pluraliste la haute fonction publique sans supprimer cet obstacle qu'est aujourd'hui l'ENA.
Merci Pierre de nous avoir appelé. Je rappelle, hein, vous l'avez dit, vous étiez maître de conférence à l'ENA il y a une quinzaine d'années. Claire Auger, vous avez aussi ce sentiment que dans cette école, on formate?
En tout cas, c'est un reproche qui est très fortement adressé à l'ENA. Ouais. Et à la limite, c'est aussi la qualité qu'on lui attribue. C'est-à-dire que parfois, quand on loue l'ENA, c'est pour dire ça, on forme des gens qui savent travailler ensemble, qui ont les mêmes méthodes, qui se comprennent immédiatement, et on forge du coup des équipes efficaces. Hein, donc c'est presque ce qu'on, à certains moments, ce qu'on a pu rechercher ou en tout cas valoriser à l'ENA. Donc il est certain qu'il y a il y a certainement une part de ce formatage qui d'ailleurs existe aussi dans les autres écoles, hein, dans pratiquement toutes les écoles. C'est justement, une école est un lieu de socialisation qui va forger des valeurs communes, des manières de travailler communes, etc. Donc, sans avoir une école commune, quand on est une école commune, c'est difficile de faire autrement. D'autre part, il y a un certain formatage qui peut venir aussi de la sélection elle-même, et c'est un petit peu une des choses sur lesquelles j'avais travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à recruter à travers les épreuves, dans un concours, des gens qui finalement ont déjà les dispositions à intégrer cette culture commune, les dispositions à cette socialisation. C'est-à-dire qu'on recrute ce que Jean-Michel Emery appelait des proto-énarques, des gens qui finalement sont tout prêt à endosser le costume. Ça, c'est un autre élément de formatage. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on observe que dans la haute fonction publique, il y a quand même une sorte de consensus autour d'un certain nombre de réformes, en tout cas une très large majorité qui se dégage. Et c'est l'ensemble de ces réformes dites néolibérales qui aujourd'hui tend à s'imposer. Donc il est certain que, de ce fait-là, l'existence d'une école en amont qui forme l'ensemble de la haute fonction publique ne peut que contribuer à la diffusion de modèles, de solutions, etc., qui sont des solutions communes, sans que ça soit absolument unanime, c'est un petit peu inévitable, oui, c'est certain.
Adeline Baldacchino.
Tout ça est très vrai. Le désaccord, en fait, je crois, porte plutôt sur la méthode. C'est-à-dire, il ne faut pas, je crois, justement, appliquer ce que certains ont pu qualifier de proverbe un peu secret ou de maxime secrète de l'ENA, dont je parlais dans mon livre à l'époque, le PDV, MV, PDV, pas de vague, mon vieux, pas de vague, qui consiste en effet à jouer les autruches, à mettre la tête sous le sable et à attendre que les problèmes passent tout seuls, ce qui évidemment n'arrive jamais et ne conduit qu'à une sorte de boule de neige, justement. Donc, on ne va pas se voiler la face. Évidemment qu'il y a une dimension de formatage, y compris idéologique, sans aucun doute, à l'ENA, mais pas seulement. On la retrouve à Sciences Po et ne parlons même pas des écoles de commerce. La question est de savoir si le simple fait de supprimer l'école va permettre de recruter des hauts fonctionnaires qui seront moins perméables à ce type de formatage. Et c'est là-dessus que je ne suis pas certaine de voir une porte de sortie très nette à ce stade.
Claire Auger, rapidement.
Il y a un point aussi qui concerne la carrière en aval, c'est-à-dire que effectivement, si les gens continuent à travailler de la même manière dans les cabinets, dans les administrations, etc., on ne changera absolument rien.
Dominique est à Chamonix et souhaite intervenir. Bonsoir Dominique.
Bonsoir. Je voulais savoir combien d'années au service de l'État sont obligés les énarques, puisque leurs études sont gratuites et ils ont une obligation de servir l'État pendant un certain nombre d'années. Je voulais savoir quel est ce nombre d'années.
Adeline Baldacchino.
Ce qu'on appelle l'obligation décennale, c'est 10 ans de service public au minimum, mais c'est une question importante et intéressante parce que tout à l'heure on évoquait, je crois Thierry Mandon, l'autre problème, ce qui fait l'objet de critiques récurrentes, notamment la question de ce qu'on appelle le pantouflage, quand des fonctionnaires vont dans des entreprises privées, mais il y a aussi une question inverse qui est celle du rétro-pantouflage, c'est-à-dire que quand on est allé travailler dans le privé et qu'on revient dans le public, parfois dans des conditions qui font qu'on peut être amené à traiter de sujets qui auraient un lien avec ceux qu'on aurait connus à l'extérieur. Et je crois qu'on a là-dessus quelque chose à faire assez sérieusement. Le Sénat, dans un rapport qu'il a rendu récemment d'ailleurs sur la haute fonction publique, insistait sur le fait qu'il fallait encadrer ça de manière beaucoup plus nette. Et je crois en effet bien au-delà de la question des 10 ans de service public.
Des chiffres que je vous soumets. Où travaillent les anciens élèves de l'ENA? 70% au service de l'État, ministère, inspection, institution administrative. 23% travaillent dans des entreprises publiques ou privées et 7% dans des collectivités territoriales ou organisations internationales. Serge est dans l'Essonne et écoute l'émission. Bonsoir Serge, c'est à vous maintenant. Serge.
C'est compliqué.
Serge, non, c'est pas compliqué. Vous êtes sur l'antenne, là, c'est un plaisir de vous entendre. Allez-y, Serge.
Oui, bonsoir. Merci encore à France Inter pour la qualité de ces émissions. Moi, je voulais juste livrer un témoignage qui consiste à dire, moi, je suis quelqu'un de la société civile qui veut faire la démarche inverse et venir apporter, en fait, mon savoir-faire que j'ai pu acquérir au regard de mes compétences auprès de la fonction publique, en essayant de passer le concours de l'ENA. Eh ben moi, je voulais juste témoigner de la difficulté qu'il peut y avoir et de l'écart qu'il peut y avoir entre toute l'expérience acquise tout au long des années d'expérience et la capacité à pouvoir rentrer au sein de l'ENA parce que c'est extrêmement très formaté, c'est extrêmement généraliste et finalement est extrêmement scolaire. Et donc on a l'impression effectivement que même si on a été reconnu au travers de son expérience propre professionnelle, quand on arrive pour passer le concours de l'ENA, on doit revenir sur des notes de synthèse que l'on sait déjà faire, bien évidemment, mais que toute cette valorisation qu'on aurait pu apporter, toute cette compétence qu'on aurait pu apporter au service de l'État, on considère qu'elle n'existe quasiment pas.
Et on n'interroge pas à ce propos, donc, Serge, si je vous comprends bien.
Pas du tout. En fait, aujourd'hui, on va vous interroger sur... là, je suis en train d'essayer de passer le concours. On vous interroge sur des sujets, sur des notes de synthèse. On va vous interroger sur des éléments de nature politique. Et puis globalement, je dirais que on a l'impression de voilà, c'est un parcours scolaire, même pour les acteurs de la société civile, déjà expérimentés, reconnus. C'est quand même extrêmement difficile de pouvoir revenir finalement, rentrer à l'ENA, sans un investissement important visant à quasiment oublier tout ce que l'on a appris en fait.
Merci Serge d'avoir témoigné. Juste un point, Adeline Baldacchino, le concours d'entrée à l'ENA, on en parle, c'est quoi exactement?
D'abord, il y a 3 voies d'accès et bientôt une 4e qui sera ouverte à des doctorants venus en tout cas des sciences physiques cette année, sciences humaines l'année prochaine si l'ENA existe toujours.
Mais les épreuves écrites, orales.
Voilà, alors les 3 voies aujourd'hui, concours externe, concours interne quand on a travaillé quelques années dans la fonction publique et la 3e voie que monsieur doit préparer. De manière globale, les épreuves varient un peu selon les voies d'accès, mais enfin vous avez des épreuves 4 à 5 épreuves écrites pour le concours externe, c'est-à-dire des dissertations, celle qui est un peu emblématique, qui porte en effet sur la culture générale, mais aussi des dissertations en droit, en économie. Vous avez aussi des épreuves orales, vous avez des épreuves de finances publiques, vous avez des épreuves de questions sociales, de questions internationales, etc. Et puis vous avez ces fameuses notes de synthèse qui sont plus importantes, dont en tout cas le coefficient est plus important, notamment pour le concours interne et le 3e concours, mais qui ne sont en effet pas sans poser des problèmes, mais au-delà de l'entrée, c'est effectivement toute la scolarité elle-même qui n'est pas forcément très adaptée au parcours des élèves internes ou des élèves venant d'une 3e voie auxquels on ne permet pas assez de valoriser en réalité ce qu'ils ont fait, puisqu'ils se retrouvent d'un coup sur exactement le même pied que des gens qui ont effectivement 25 ans et à peu près aucune expérience. Et donc là-dessus, sans aucun doute, des marges de progrès.
Intervention de Thierry Mandon, ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur. Il est à Saint-Étienne.
Oui, si on réfléchit, c'est le défaut de fabrique de l'ENA aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'idée que, la prétention, au sens premier du terme, que les cadres supérieurs de l'État, les plus hauts fonctionnaires, doivent être les meilleurs de leur génération, et meilleurs entendus au sens de réussite scolaire. En gros, ça doit être les plus brillants cerveaux qui font l'ENA et donc qui sont appelés à diriger l'État. Ça, c'est juste totalement obsolète. D'abord, mon sentiment, c'est que les meilleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est pas forcément les plus intelligents et ceux qui ont tous les codes pour briller dans un oral et donner le sentiment qu'ils sont les meilleurs à l'école. Les meilleurs, c'est ceux qui, confrontés à la vie, passent les épreuves. Et donc, ils n'ont pas forcément 20 ans, ils peuvent avoir 30 ans, ils peuvent avoir 40 ans, et comme votre auditeur tout à l'heure, avoir fait des choses fantastiques dans la société, et demain pouvoir, parce qu'ils ont envie de servir l'État. Et ça, c'est quasiment impossible. Il y a une 3e voie, les conditions donc qui permettent d'entrer un peu plus tard avec un peu d'expérience, mais enfin c'est son impact reste assez faible sur les postes de très haute responsabilité dans l'État. Donc ça c'est la première idée, cette idée que c'est fini ce temps où les soi-disant meilleurs d'une génération faisaient l'ENA. D'abord il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'autres écoles, et donc les choses peuvent pas se passer comme ça. La deuxième réflexion que même nous invitait à donner votre auditeur tout à l'heure, c'est que les parcours monolithiques, je commence à 20 ans dans l'État et je finis à 20 ans, à 60 ans ou plus dans l'État, pour ceux qui restent et qui servent l'État, finalement, c'est quand même... ça assèche l'État.
Ouais.
La confrontation de cultures différentes, la confrontation de parcours différents, de personnalités différentes, de conditions sociales d'origine différentes. Ça ressemblerait à la société et c'est ça dont l'État moderne a besoin. Et donc, si le président décide de supprimer l'ENA, qu'au moins il engage une réflexion qui aurait dû être préalable sur ce que doit être un État moderne, que doit être la formation de ses cadres supérieurs, la formation et la carrière et la façon de recruter ces profils, peut-être beaucoup plus diversifiés qu'une ou deux écoles monolithiques. Au passage, on est très dur avec l'ENA, mais enfin, il y a deux, trois grandes écoles d'État qui mériteraient exactement le même sort. Hein. Je pense à X, qui est quand même pas très loin des reproches qu'on fait à l'ENA. Et là, pour le coup, il y a un beau, vrai sujet, État moderne. Ouais. Cadre supérieur moderne.
Merci Thierry Mandon. Claire Auger, avant de prendre un tout dernier appel.
Oui, la difficulté, c'est que, en fait, ça fait 30 ou 40 ans qu'on dit qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de diversité sociale, plus d'expérience, plus de diversité, etc., etc. Et des trois concours, c'est le premier, le concours externe, qui continue à être le plus prestigieux de très loin, le plus valorisé, etc. Ce sont vraiment ceux qu'on recherche, mais ce sont aussi ceux qu'on met dans les cabinets ministériels, ceux qui vont dans les grands corps, etc. Quand on regarde le classement de sortie et le classement d'entrée, on se rend compte que ceux qui sortent dans la botte sont rarement issus du concours interne et encore moins de la troisième voie, même si ça peut arriver.
Charlotte, bonsoir Charlotte, bienvenue sur l'antenne.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel. Alors moi j'appelle, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis pas ENAF, moi je travaille pour un EPA dans le domaine de la culture, je termine ma carrière, j'ai 60 ans, je travaille dans le domaine de la culture donc et... Le gros reproche que je fais, c'est que, en l'occurrence, chez nous, pratiquement tous les directeurs sont des énarques. Donc, ils connaissent leur boulot, hein, ils connaissent tous les rouages de l'administration, ils savent pas toujours exactement ce qu'on fait, mais enfin, ça, c'est pas dramatique, ils savent parfaitement où ils veulent aller, etc. Mais alors, il y a un très, très gros problème de management humain, hein. Ils connaissent pas du tout leurs agents. Ils ne s'adressent pas à nous, ils ne disent pas bonjour, et c'est des jeunes, hein. Moi, j'ai 60 ans. La plupart des directeurs ont entre 35 et 38 ans. Hein. Donc je pense que, moi j'en ai un qui m'a carrément dit, on nous apprend une façon pour parler à nos agents, pour leur répondre. Ils ne savent pas nous recevoir si ça ne concerne pas le boulot proprement dit. Ils n'ont pas accès à nous, ils ne nous voient pas, ils ont accès éventuellement à nos dossiers, et encore que, faut passer par une hiérarchie, mais ils ne voient pas l'humain. Ils ne voient pas, à tel point que là j'ai une anecdote, j'ai un de mes collègues qui a été absent 15 jours, le directeur ne s'est pas aperçu de son absence.
Charlotte, merci beaucoup d'avoir témoigné sur ce comportement des dirigeants. Charlotte qui travaille dans un établissement public de la culture, Adeline Baldacchino, ce portrait des dirigeants.
Charlotte dit des choses qu'on entend très souvent, heureusement pas de manière systématique, mais ce qu'elle décrit est catastrophique, c'est évident. Les qualités humaines, comme partout, devraient primer. Moi, je plaide, et je suis un peu seule à plaider pour ça depuis longtemps, pour l'idée qu'en effet, à l'ENA, il faut aussi s'occuper de choses qu'on oublie un petit peu et qu'on met souvent sur une étagère pour faire joli, comme la littérature ou la poésie, vous voyez ? Et je crois en effet une formation, même celle des hauts fonctionnaires, ne sera jamais complète tant qu'elle n'intégrera pas, et de manière prioritaire, la dimension des humanités, à tous les sens du terme.
Merci à nos invités Adeline Baldacchino, Claire Auger et Thierry Mandon. C'était le téléphone sonne.